J'ai mon confrère Peter Bollen, qui est expert judiciaire à Baden-Baden en Allemagne, vous expliquera comment l'on est inscrit sur les listes des experts et comment il conduit les expertises en Allemagne. Monsieur Peter Bollen, ne parlant pas allemand, français, je remercie Monsieur Michel Cuigny, qui est mon voisin, d'avoir accepté de réaliser les traductions. Je ne vais pas vous ennuyer en vous expliquant comment les experts judiciaires français sont inscrits sur les listes en France, car vous le savez tous, mais je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Peter Bollen, qui va nous expliquer, après s'être présenté, comment on devient expert judiciaire en Allemagne et comment fonctionnent les listes. Peter.
Merci, Bertrand. Excusez. Ich bin von der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Maschinen, industrielle Anlagen und deren Bewertung. Als erstes möchte ich Ihnen einen Einblick über den deutschen Sonderweg des gerichtlichen Sachverständigen geben. In Deutschland ist die allgemeine Bezeichnung Sachverständiger nicht gesetzlich geschützt. Das heißt, jeder kann sich Sachverständiger nennen. Im Gegensatz dazu ist die Bezeichnung öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger gesetzlich geschützt. Die missbräuchliche Verwendung dieses Titels ist strafbar.
Voilà. Je suis de la Chambre de commerce de Karlsruhe. Je suis de la Chambre de commerce de Karlsruhe, nommé officiellement et assermenté expert pour les machines, les installations industrielles et leur évaluation. En premier, je veux vous donner un aperçu des voies spéciales des experts judiciaires en Allemagne. En Allemagne, l'expert, terme général, n'est pas protégé par la loi. Cela signifie que n'importe qui peut se nommer expert. En revanche, le terme « expert officiel nommé et assermenté » est protégé par la loi. L'utilisation illégale de ce titre est punissable.
Bestellungsbehörden sind unter anderem die Industrie- und Handelskammern, die wiederum Expertenkommissionen eingerichtet haben, bei denen sich ein Bewerber einer Überprüfung zu unterziehen hat. Auch wird eine persönliche Eignung des Bewerbers geprüft. Zur persönlichen Eignung gehören auch der Ruf und das Ansehen des Bewerbers in der Öffentlichkeit und in seiner Berufsausübung. Schon geringe Bedenken hinsichtlich der persönlichen Eignung reichen aus, um die öffentliche Bestellung zu versagen, da der Schutz der Öffentlichkeit und das Vertrauen auf die öffentlich bestellten Sachverständige Vorrang vor den privaten Interessen des Bewerbers haben. Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige gibt es meines Wissens nur in Deutschland. Objektivität, Unparteilichkeit natürlich und Weisungsfreiheit gehören zu den Grundpflichten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen. Hierauf hat er einen Eid zu leisten. Ein Verstoß gegen diese Pflichten kann ein Straftatbestand darstellen.
Les chambres de commerce et d'industrie ont le pouvoir de nomination et ont créé des comités d'audit dans lesquels un candidat est soumis à un examen d'aptitude. Les qualités personnelles des candidats sont également vérifiées. Elles incluent la réputation publique et la réputation dans la profession du requérant. De petites préoccupations sur le caractère de l'individu peuvent même être suffisantes pour refuser la demande, car l'ordre public et la confiance à des experts nommés officiellement ont la priorité sur les intérêts privés du requérant. Des experts nommés officiellement et des experts assermentés sont une particularité de l'Allemagne. L'objectivité, l'impartialité et la liberté du savoir sont les obligations de base des experts nommés officiellement. Ensuite, ils doivent prêter serment. Une violation de ces obligations est une infraction pénale.
Aufgrund des geleisteten Eides gelten öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige als besonders glaubwürdig und werden in Deutschland im Regelfall zur Erstellung von Gutachten bei Gericht herangezogen. Diese Grundpflichten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen gelten aber nicht nur gegenüber Gerichten, sondern auch gegenüber jedem privaten Auftraggeber. Natürlich ist man sich auch in Deutschland bewusst, dass die Qualifikation als zertifizierter Sachverständiger, der auf Europanormen beruht, weltweit anerkannt ist. Allerdings hat die Zertifizierung im deutschen Recht bislang keine Berücksichtigung gefunden. Lediglich die öffentliche Bestellung und Vereidigung besitzt in Deutschland die gesetzliche Grundlage. Deshalb wurden durch Novellierungen die gesetzlichen Regelungen zur öffentlichen Bestellung an die europarechtlichen Anforderungen angepasst.
En raison du serment officiel, les experts nommés et assermentés sont particulièrement crédibles et érigés en règle pour créer les rapports avec les tribunaux en Allemagne. Ces obligations de base des experts nommés officiellement ont valeur non seulement pour la justice, mais aussi pour n'importe quel client privé. Bien sûr, en Allemagne, nous sommes aussi conscients que la qualification d'un expert certifié sur la base des normes européennes est reconnue à travers le monde. Toutefois, la certification n'a pas trouvé dans le droit allemand de recommandation. En Allemagne, seule la nomination officielle avec prestation de serment a valeur de base légale. Par conséquent, des modifications ont été adaptées par des dispositions légales d'ordre officiel aux exigences juridiques européennes.
Bon, on a résumé en quelques phrases la procédure allemande. À ce stade, y a-t-il des questions par rapport à la nomination sur les listes en Allemagne des experts ?
Eine Frage ist, wie viele Experten gibt es so in Deutschland? Wissen Sie das?
Oh, das kann ich jetzt leider nicht sagen. Also es sind schon relativ viele, weil wir so viele Bestellungsgebiete haben. Da ist alles unterteilt in Bestellungsgebieten.
Il y en a quand même un certain nombre. Il y en a quand même un certain nombre. Il ne sait pas exactement combien. Par contre, parce qu'il y a beaucoup de domaines différents. Hein. Donc chaque domaine a ses experts. Et ensuite,
chaque domaine fixe son niveau d'exigence.
Oui. Und die Förderung für den Expert, wer, das ist der Handelskammer, das fragt das. Die Förderung, die Formation, die Schulung von den, ja, und die Kompetenz von den Experten, wer fixiert das?
Also die Industrie- und Handelskammern überprüfen die Personen, die sich bewerben. Also und da gibt es dann auch Schulungen natürlich, die angeboten werden, die muss man generell selber bezahlen, das ist keine Frage. Und irgendwann mal muss man sich einem Gremium stellen und muss sich sechs Stunden lang prüfen lassen. Und wenn die dann so machen, dann ist man halt, hat man das erreicht.
En fait, c'est une particularité, c'est la chambre de commerce, c'est la chambre de commerce qui donne l'agrémentation à l'expert, hein. Donc ils doivent faire leur formation, payer eux-mêmes leur formation, et ensuite ils passent une épreuve d'environ 6 heures devant la chambre de commerce pour être agrémenté. Et donc si c'est bien, c'est bien. Si je traduis le pouce aussi, si c'est bien, c'est bien. Sinon,
ah, voilà. Pas de référentiel de base.
Es kann einen Fachmann sein, ein Experte kann ein Fachmann sein, kann ein Ingenieur sein, kann ein Techniker sein. Jeder kann Experte sein.
Eigentlich nicht, nein. Also ich meine, jetzt in meinem Bereich ist natürlich ein Ingenieurstudium eigentlich Grundvoraussetzung. Mhm. Allerdings gibt es natürlich auch Experten jetzt für Dachdeckerwesen. Ich meine, das kann man halt nicht studieren im Regelfall. Das sind dann wirklich Fachleute, Handwerker, die eine Meisterprüfung absolviert haben. Die werden dann aber allerdings auch nicht von der Industrie- und Handelskammer eingestellt, sondern dann von der Handwerkskammer.
Oui. Il y a un ensemble d'experts, donc en général, le niveau de base, c'est ingénieur. Mais évidemment, dans les expertises pour les toitures et des choses comme ça, c'est des maîtres artisans qui sont experts, mais ce n'est pas nommé par la Chambre de commerce, mais c'est nommé par la Chambre des métiers.
Dans le domaine qui n'est pas le domaine industriel, c'est-à-dire pour les médecins, le domaine de l'art, les experts comptables ou la comptabilité, est-ce que ce sont les chambres de commerce qui dressent aussi les listes ou qui les dressent ?
Also Medizin, mit Medizin weiß ich jetzt nicht, glaube ich nicht. Das müsste da würde ich was Falsches sagen, aber ich glaube es nicht, dass es die Industrie hat. Das kann man aber für Kunst auf jeden Fall, ja doch, das wird auch gemacht.
Oui, donc pour la médecine, bon, c'est pas très clair pour lui, mais pour l'art, c'est vraiment la chambre de commerce qui définit ça. und für den Buchhaltung.
Ja. Die Industrie- und Handelskammer kümmert sich um die Industrie und den Handel.
Oui, 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 la Chambre de Commerce et de l'Industrie s'occupe de l'Industrie et du Commerce.
Oui.
Und Buchhaltung und finanziell, das ist auch Commerce. Handelskammer, ja.
Es gibt wirklich so viele Bestellungsgebiete, weil Sie können sich es eigentlich selbst aussuchen. Also ich meine, wenn Sie in irgendwas ein Experte sind und es gibt im Zivilrecht öfters mal Probleme, wo sich Personen streiten und Sie können dazu beitragen dann, und Sie haben diese Fachprüfung hinter sich gebracht, dann haben Sie auch das Recht, sich bestellen zu lassen.
Oui, donc il y a beaucoup de domaines et en fait, s'il y a des au niveau civil, s'il y a donc deux parties qui sont en cours et si vous avez les capacités pour faire le si vous avez les capacités pour faire le l'expertise, donc vous pouvez faire cette expertise. Oui, donc c'est au niveau. Oui, donc il y a beaucoup de domaines hein, et puis bon c'est. Gibt es einen, kann man eine gewisse Menge von Experten oder kann man mehr haben oder jeder kann sich prüfen lassen bei einer Handelskammer oder?
Also so, soweit ich weiß, kann sich jeder prüfen lassen. Früher wurde es mal geprüft, ob überhaupt das benötigt wird. Aber dieses Gesetz hat man geändert.
Oui. Donc maintenant n'importe qui peut se former. Et ensuite aller à la chambre de commerce et passer l'accréditation. Et il n'y a pas de numerus clausus, il y a pas de. Donc on peut. C'est ouvert, oui. C'est la demande, oui. C'est la personne, si elle a les capacités, peut être. Et c'est la passer.
Si j'ai bien compris. Oui, Jean Parrain de Rouen. Si j'ai bien compris, la différence en Allemagne, bon, il y a bien sûr la nomination par les chambres de commerce, les organismes professionnels par rapport à la France, c'est une grosse différence, effectivement. Mais je viens de découvrir, et j'aimerais bien que vous le rappeliez, l'expert de justice ou judiciaire allemand a le droit de faire valoir son titre hors du judiciaire, alors que c'est formellement interdit en France. Je crois qu'on va me le confirmer. C'est bien vrai ?
Also wenn Sie unter Zivil Privatpersonen meinen, generell ja. Also öffentlich bestellte verteidigte Sachverständige sind also sowohl im Gerichtsbereich, können sie eingesetzt werden, wie im privaten Bereich.
Also strafrechtlich.
Und im Gericht natürlich Zivilrecht und Strafrecht, aber das machen wir noch.
Ja. Oui, on en parlait un peu tout à l'heure encore de ça. Mais la réponse est quand même qu'il fait le civil, le pénal, et il fait également le privé si c'est nécessaire.
Non, parce que la question que je posais, c'est que notre ami en Allemagne peut-il se faire de la publicité en disant qu'il est expert judiciaire, alors que c'est interdit en France. C'est ça que je voulais dire. Je ne peux pas dire je suis expert judiciaire à un de mes clients.
Ah, in Frankreich.
On est expert judiciaire à l'intérieur de la mission.
Voilà. Yeah. Ja, kann man sich bewerben, dass man Expert ist, dass man sachverständlich ist? Kann man sich bewerben?
Also bei mir war es so.
Kann man sich bewerben? Oder?
Ja, sicher. Also ich bin zu meiner IHK gegangen, das war die in Karlsruhe, Baden-Baden liegt in der Nähe von Karlsruhe, und habe der IHK erklärt, wer ich bin, was ich bisher gemacht habe und dass ich das machen möchte. Und dann haben die gesagt, dass das in Ordnung ist und dass ich mich gerne vorbereiten kann und dann mich einer Prüfungskommission stellen. Und wenn ich das erreicht habe, dann vereidigen sie mich.
Ja, aber die Frage ist, kann man sich bewerben bei offiziell an andere Leute oder dass sie
andere Leute?
Dass sie sag,
ja gut, ich meine, ich bin ja aufgelistet in den bei der IHK. Also jeder kann dort einsehen im Internet und wird mich finden.
Mhm. Donc effectivement, il est inscrit officiellement à lui, il est inscrit officiellement à la Chambre de commerce. Et sur Internet, on va le retrouver comme expert judiciaire.
Man darf auch eine eigene Homepage haben.
Et il peut avoir aussi une page sur Internet pour se présenter, oui. Donc il y a une page qui aber an die Handelskammer auf der Homepage. Oui, donc il y a la liste et il peut avoir sa page dans la liste de. Einmal, wenn Sie, Sie haben jetzt den Prüfung gemacht und wie bekommen Sie die den Arbeit von den Gericht?
Also im Regelfall, wenn ein Richter ein Problem hat und etwas Technisches nicht versteht, dann wird er auf die Homepage der IHK gehen und sich dort einen Sachverständigen suchen.
Oui, donc c'est assez simple. Quand un juge n'arrive pas à répondre à une question technique, il va sur la page de la Chambre de commerce et va se chercher un expert compétent pour répondre à sa question. Wer wird die, was der Expert bekommt als Zahlung, wie wird das geregelt?
Also bei Gericht ist es so, dass wenn eine Partei etwas unter Beweis stellen möchte und als Beweismittel den Sachverständigen nimmt, dann muss sie dem Gericht vorab einen Vorschuss bezahlen. Und erst wenn dieser eingegangen ist, werde ich beauftragt.
Oui, donc en principe, au tribunal, c'est une partie qui veut avoir une preuve, qu'on fasse une preuve. Et donc le tribunal va demander une provision pour cette preuve. Et une fois que la provision est versée, l'expert commence son intervention. Oui.
Et la rémunération finale?
Und wie ist das so vorgesehen? Ist das stundlich? Bezahlt,
also in Deutschland werden die Sachverständigen stundeweise bezahlt, und zwar ab Türklinke, also ab zu Hause, also auch der Weg. Bei Gericht in meinem Fall sind es 75 Euro pro Stunde. 70. Jetzt ist es einfach so, dass ein Richter im Regelfall den Daumen nimmt und sagt, da will ich jetzt mal einen Vorschuss haben von 1000 Euro. Mhm. Wenn der Sachverständige das dann kriegt und sieht sofort, damit komme ich nicht hin, dann schreibt er wiederum zurück, ich brauche mehr. Und dann wird er es wiederum einfordern.
Oui, donc c'est relativement, c'est le salaire est environ de 70 euros par heure, et donc c'est le juge qui pense qu'il faut tant et tant d'heures, donc il propose de par exemple 1000 euros, et si l'expert ne considère que cette somme va pas suffire, il fait directement une demande au niveau du tribunal pour augmenter la provision. Oui. Das ist ungefähr dasselbe als in Frankreich.
Oui, donc je vais continuer. Donc je vais parler des missions qui sont confiées au niveau pénal, et après on abordera les missions qui sont confiées aux civils. Donc pour faire l'expertise comparée par rapport à l'Allemagne, j'ai pris un exemple relativement précis. J'ai décrit le mode opératoire général pour pouvoir comparer par rapport aux méthodes d'investigation ou le processus développé en Allemagne. Donc en ce qui concerne les expertises ordonnées au pénal que j'ai eu à traiter, elles ont fait suite à un accident et majoritairement à un accident du travail sur une machine ou une ligne de production. L'expertise pénale est non contradictoire. De manière générale, pour procéder à une expertise suite à un accident du travail, je procède de la manière suivante. Reconstitution des circonstances de l'accident en fonction des témoignages de l'état de la machine ou de la ligne de production après l'accident, en veillant à mettre en évidence les contradictions entre les témoignages afin de procéder aux vérifications d'usage. Ensuite, je fais la reconstitution des circonstances de l'accident en fonction des témoignages de l'état de la machine après l'accident, en recherchant le scénario le plus crédible en fonction de l'état de la machine et du fonctionnement de l'automatisme et des sécurités de la machine ou de la ligne de production. Ensuite, je recherche la réglementation applicable à la machine pour me permettre de rechercher les non-conformités de la machine et la mise en évidence du lien causal direct entre les non-conformités réglementaires et l'accident. En d'autres termes, si la machine n'avait pas ces non-conformités, l'accident ne serait pas produit. Ensuite, dans la mesure où il y a une différence entre les témoignages et la reconstitution des circonstances de l'accident possible en fonction de l'automatisme de la machine et des sécurités telles qu'ils fonctionnaient au moment de l'accident, je procède à une reconstitution des circonstances de l'accident. Et dans ce cas, il y a deux cas de figure, soit les témoignages, les témoins ou l'accidenté modifie ses déclarations, et là tout va bien, on est en phase. S'il maintient ses déclarations et que techniquement ce n'est pas possible, j'acte la différence et je décris le scénario techniquement possible compte tenu de l'automatisme de la machine et des sécurités de la machine. Donc je donne la parole à mon confrère Peter Bollen en lui demandant si le processus de l'expertise suite à un accident est le même en Allemagne ou s'il y a des différences et si oui, lesquelles ?
Also auch im deutschen Strafrecht finden Ermittlungen nach strafbaren Handlungen mit Hilfe von Sachverständigen statt. Wird ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger von einer Behörde beauftragt, ist seine Vorgehensweise der französischen ähnlich. Allerdings muss der Beweisgegenstand, zu dem der Sachverständige ein Gutachten erstellen soll, möglichst präzise angegeben werden.
Oui. De même, dans le droit pénal allemand, relatif à des actes criminels, on retrouve l'appel aux experts. Si un expert officiellement nommé et assermenté est engagé par l'autorité, son approche est similaire à la française. Toutefois, la question des preuves à laquelle l'expert doit donner son avis doit être définie aussi précisément que possible.
Maschinensachverständige werden im Strafprozess allerdings nur selten eingesetzt. Das liegt an dem Umstand, dass sich bei einem Arbeitsunfall die Berufsgenossenschaften einschalten und ihrerseits ermitteln. Die Berufsgenossenschaften sind die Träger der gesetzlichen Unfallversicherungen in Deutschland und haben schon dadurch ein Interesse an der Aufklärung von Unfällen.
Les experts pour machines sont toutefois rarement nommés dans les procédures pénales. Cela est dû au fait que dans un accident de travail, les associations professionnelles sont engagées et pourvoient par eux-mêmes. Ces associations professionnelles sont les porteurs de l'assurance accident obligatoire en Allemagne et ont par ce fait un intérêt dans les enquêtes pour les accidents.
À ce stade-là, y a-t-il des questions ? Non ? C'est l'assurance. C'est un peu comme l'accident de travail, la CRAM. Ben, c'est les conseils de la...
C'est en fait, c'est la sécurité, c'est où l'argent arrive, c'est là où l'argent arrive et l'argent est repayé. Oui, c'est l'écrément d'un crime, ça s'appelle le Beruf, Genossenschaft, c'est donc le... Un
schwieriges Wort, Berufsgenossenschaft.
Oui.
Donc, on va continuer et on va parler de l'expertise au civil. En ce qui concerne les expertises ordonnées au civil que j'ai eu à mener, elles sont menées avec le respect strict du contradictoire. La typologie des principaux types d'expertise civile est des dysfonctionnements des machines, des non-conformités au niveau de la qualité des produits fabriqués ou la non-conformité de la productivité de la machine ou de la ligne de production. Tels sont les principaux problèmes que j'ai rencontrés en expertise civile. Donc, de manière générale, lors d'une expertise civile, je procède la manière suivante. J'entends contradictoirement les parties, puis je trie les problèmes déclarés par famille, problèmes liés à la conception, à l'installation, à l'utilisation, à la formation des utilisateurs, à la maintenance, etc. Pour me permettre de rechercher, je recherche également les performances contractuelles de la machine ou de la ligne de production, ainsi que les conditions d'installation, d'utilisation et de maintenance. Puis je définis contradictoirement le protocole des essais de capacité de la machine dans le but de vérifier si la machine est capable d'atteindre les performances contractuelles, c'est-à-dire l'on définit les conditions d'essai permettant de mettre en évidence les dysfonctionnements déclarés, ce qui nous conduit à sélectionner les produits et la configuration de la machine permettant de mettre en évidence les dysfonctionnements. Pendant la durée des essais de capacité, la machine sera conduite par les techniciens du constructeur de la machine, ceci dans le but d'éviter les éventuels problèmes provenant d'une mauvaise utilisation de la machine, d'un manque de formation ou d'un manque d'expérience des opérateurs de l'utilisateur de la machine. Le but de ces essais n'est pas de montrer que la machine fonctionne, mais de mettre en évidence contradictoirement les dysfonctionnements de la machine. De plus, les 10 essais devront être réalisés avec une machine préalablement révisée et réglée par le constructeur. Il convient également de définir précisément les conditions dans lesquelles le constructeur de la machine va préalablement réaliser contradictoirement les opérations de maintenance ainsi que les réglages de la machine et la durée de ces opérations, sachant que les essais débuteront immédiatement après. Le but des essais de capacité est de vérifier si la machine ou la ligne de production est capable de réaliser et d'atteindre les performances contractuelles dans les conditions fixées contractuellement. Si les essais de capacité ont permis de mettre en évidence que la machine est capable d'atteindre ses performances contractuelles, l'on vérifie si elle est capable de maintenir ses performances dans le temps. C'est ce que j'appelle les essais de maintenabilité. Après avoir fait ces essais, je pratique à la définition contradictoirement du protocole des essais de maintenabilité de la machine, ce qui permet de vérifier si la machine est capable de maintenir ses performances contractuelles dans le temps. Pendant ces essais de maintenabilité, il sera procédé à la classification des dysfonctionnements constatés de la machine par famille. Défaut de conception, mauvais réglage, défaut d'installation, défaut d'utilisation, non-conformité des produits entrant dans la machine, défaut de maintenance, etc. Après avoir classifié les dysfonctionnements constatés, il est procédé à la recherche de ou des origines de chaque dysfonctionnement. Après avoir trouvé donc l'origine de ces dysfonctionnements, je recherche les remèdes pour chaque dysfonctionnement constaté. Puis, je fais l'estimation du budget de remise en état de la machine et souvent, je fais l'évaluation des préjudices. De manière générale, je rappelle que l'expert répond aux questions qu'on lui pose et celui qui pose les questions, c'est le magistrat qui ordonne la mission d'expertise, ce que les parties ont tendance à oublier. Je donne la parole à mon confrère Peter Bollen en lui demandant si le processus de l'expertise civile est le même en Allemagne ou s'il y a des différences, et si oui, lesquelles.
Merci. Sachverständige für Maschinen werden größtenteils im Zivilrecht und dabei handelt es sich um Parteienprozesse eingesetzt. In Deutschland ist das Know-how, das eingesetzt wird, um einen technischen Sachverhalt zu klären, ähnlich wie in Frankreich. Unterschiedlich ist die Art der Beauftragung durch das Gericht. Denn der Sachverständige ist als Helfer des Gerichts ein Beweismittel des gerichtlichen Verfahrens. Die Aufgaben des Sachverständigen ergeben sich aus der Aufgabenbeschreibung im gerichtlichen Beweisbeschluss.
Les experts en machine sont engagés essentiellement en droit civil pour un procès entre parties. En Allemagne, le savoir-faire qui est utilisé pour clarifier une question technique est similaire à la France. Ce qui diffère est la façon dont la mission est notifiée par le tribunal. Car l'expert est un appui du tribunal comme élément de preuve de la procédure judiciaire. Les tâches de l'expert résultent de l'énoncé de la mission d'enquête par le tribunal.
Grundlage des Beweisbeschlusses ist im Regelfall eine Behauptung einer Partei, die diese mittels eines Sachverständigen unter Beweis stellen will. Der Sachverständige muss bei dem Gericht hauptsächlich eine fachliche Beurteilung von Tatsachen und Bewertungen abgeben, die dem Gericht helfen, eine Überzeugung von der Richtigkeit oder Unrichtigkeit einer streitigen Behauptung zu verschaffen. Keinesfalls wird dem Sachverständigen die Aufgabe gegeben, einen Sachverhalt auszuforschen. Der Sachverständige darf sich in seinem Gutachten nur zu tatsächlichen und wissenschaftlichen Fachfragen sowie zu technischen und wissenschaftlichen Sachverhalten äußern. Das Beweisthema und der Inhalt der Akten bilden die absoluten Grenzen seiner Tätigkeit. Die rechtliche Beurteilung des Streitstoffs ist allein Sache des Richters.
Basiquement, la vérification d'un fait, qui est habituellement une affirmation d'une des parties, sera par l'intervention de l'expert érigée en preuve. L'expert doit fournir à la Cour essentiellement une évaluation technique des faits et des preuves qui contribuent au tribunal pour arriver à une conviction de la justesse ou de l'inexactitude de la preuve contestée. En aucun cas, l'expert ne se voit attribuer la tâche d'exploration ou d'investigation d'une situation. L'expert ne peut pas exprimer dans son rapport que des questions factuelles et scientifiques, ainsi que des faits techniques et scientifiques. Le thème de la preuve et le contenu des documents sont les limites absolues de son activité. La détermination juridique du litige est le seul fait du juge.
Bei Orts- oder Objektbesichtigungen hat der Sachverständige den Parteien die Gelegenheit zur Teilnahme zu geben. Der Sachverständige darf sich während des Termins nicht verleiten lassen, seine Feststellungen auf andere als die im Beweisbeschluss genannten Punkte zu erstrecken. Er darf keine Ermittlungen führen. Generell muss der Sachverständige sein Gutachten persönlich erstatten und hat dadurch die alleinige Verantwortung, für die er haftbar ist.
Pour les visites sur site ou sur place, l'expert donne la possibilité aux parties d'y assister. L'expert ne peut pas être tenté au cours de sa mission d'étendre ses conclusions à d'autres que les points nommés dans sa mission d'enquête. Il ne peut pas mener d'enquête. En règle générale, l'expert doit émettre son avis personnel et en a donc l'entière responsabilité et il en est redevable.
Merci. Y a-t-il des questions ? Oui.
Une question plutôt générale. Quelle est la responsabilité de l'expert vis-à-vis d'abord le tribunal et ensuite les parties ? Est-ce qu'il bénéficie d'une immunité judiciaire, par exemple ?
Zwischen den für das Gericht und an den Parten. Was hat er für ein verantwortlich? Ist er, kann er straflich verantwortlich sein, wenn er das falsch macht? Und das
also er kann auf jeden Fall Probleme kriegen. Es kann strafrechtliche Folgen haben. Wenn Sie also einen Fehler gemacht haben, der Ihnen hätte auffallen müssen, dann können Sie dafür haftbar gemacht werden.
Si vous avez commis une erreur, qui est une erreur visible, hein, quelque chose d'important, vous pouvez être poursuivi pour cette erreur. Oui. Pour la faute, oui, vous pouvez être poursuivi pour la faute. Oui, oui, c'est la
responsabilité. Genau, so ist es, ja. Also noch schlimmer ist es bei Privatgutachten. Also da haften sie über den Tod hinaus.
Oui, si c'est encore en privé, c'est encore plus net, hein, comme responsabilité.
Est-ce qu'on peut revenir sur la désignation des experts en matière pénale ? Parce que vous dites, les experts en machine sont toutefois rarement nommés dans les procédures pénales. Alors qui fait les expertises si ce n'est pas les experts en machine ?
Ja gut, im Strafrecht ist es ja im Regelfall sind es Unfälle.
Oui, donc en général, quand c'est pénal, c'est à cause d'accidents.
Und wenn Unfälle da sind, dann will derjenige, der.
Il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que lui, il parle par rapport à lui, pas par rapport à tous les experts. Parce que lui, il est expert en industrie comme moi. Donc lui, il compare les missions qu'il a par rapport à les missions que moi j'ai en France. Donc lui, il parle par rapport aux missions que lui reçoit au pénal. Et quand il y a des voitures, des accidents de circulation, c'est les experts automobiles qui s'en occupent. Et quand il y a un accident sur une machine, en Allemagne, ils sont pas nommés eux. C'est l'équivalent, je sais plus le nom, c'est l'équivalent de la CRAM en Allemagne. Parce que ils ont un système de cotisation salariale d'accident du travail. Et c'est eux qui indemnisent donc les victimes. Et c'est eux qui ont un service de prévention avec des ingénieurs conseils à l'intérieur de leur organisation. Et c'est eux qui font les expertises.
Oui, mais il peut y avoir une condamnation au pénal d'une entreprise qui est responsable de l'accident de son employé. Et c'est pas seulement la machine qui peut être mise en cause.
Certes, mais lui, il parle de lui. Oui, mais lui, il parle de ce que lui fait, il parle pas de ce que les autres y font. Ça, il sait pas, il sait déjà bien ce qu'il fait, c'est déjà pas mal. Il y a encore une question ? Oui, c'est vrai.
Vielleicht gebe ich Ihnen mal kurz ein Beispiel. Wenn sich ein Mensch an einer Maschine verletzt, dann schwer verletzt, dann hat er ja aufgrund der gesetzlichen Absicherung Anspruch auf Rente oder zumindest mal einen Teil davon.
Oui, je vais prendre un exemple. Si quelqu'un se blesse, un accident grave, par exemple sur une machine, il a droit à une certaine rente ou à une certaine compensation. Oui.
Jetzt geht's weiter. Das sind dann die Berufsgenossenschaften, das, was ich vorhin gesagt habe. Das sind diejenigen, die die Rente bezahlen müssen. Die werden natürlich alles tun, um zu schauen, dass sie den Maschinenhersteller haftbar machen können.
Oui, donc ça c'est l'organisation professionnelle, plus ou moins la sécurité sociale, qui va essayer de faire passer la responsabilité sur le fabricant de la machine. Et donc c'est parce que c'est eux qui payent la rente. Hein, donc.
Oui, mais vous êtes toujours dans le civil, là, parce que vous êtes dans l'indemnisation, c'est pas du pénal. Le pénal, c'est quand il y a une faute.
De prison, il y a une peine de prison.
C'est, on n'est pas dans le même niveau. Dans la partie pénale, il y a une faute.
Nein, das kann unangenehme Folgen für den haben, für den Maschinenhersteller, bis zu Rückrufaktionen. Der muss sich eine Maschine umkonstruieren, alles Mögliche. Später ist es dann so, dass der den Unfall hatte, gegen den Maschinenhersteller noch zivilrechtlich vorgeht. Und dann komme ich wieder ins Erscheinungsbild.
Kann er auch eingesperrt werden? Donc là je crois que je vais vous demander de conclure.
D'accord.
Le problème est posé et finalement ça fera l'objet d'une autre réunion.
Ah, that's good. Ja, Sie wollen eine neue Meeting machen zusammen, weil noch viele Fragen bleiben offen.
Non, ce qu'il a dit, parce qu'on a discuté ce problème pour on avait une réunion préparatoire aujourd'hui. Lui, ce qu'il dit, c'est que lui, il n'est jamais nommé en enquête pénale quand il y a un accident du travail. Ça, c'est l'équivalent de la CRAM, je ne sais pas le nom, qui s'en occupe. C'est ça qu'il dit. Après, ce que les autres y font, il ne sait pas. Donc, en conclusion, nous espérons que nos interventions ont permis de mettre en évidence les similitudes ainsi que les différences entre nos deux systèmes. Et je remercie Peter Bollen pour sa participation. Et également Monsieur Michel Cuny pour ses remarquables traductions en live, pas celles qui étaient préparées. Merci.
Merci beaucoup. C'est ainsi que l'Europe se construit.